Moi, mon objectif, c'est d'être heureuse.
C'est trop bien.
Et...
C'est ultra ambitieux.
Non, mais c'est ultra ambitieux, mais je donne vraiment les moyens pour. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Mais, et je vais juste essayer de continuer, tout en progressant, tout en voyant ce que je peux apprendre, ce que je peux... Et tu sais, déjà, rester heureuse, c'est quand même déjà un objectif en soi.
Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, on continue la série de rencontres au bord du bassin, les pieds dans l'eau avec nos athlètes, puisque nous parlons avec Camille. Camille est tout juste diplômée de son école de commerce et elle va nous parler de la manière dont elle a construit sa propre ligne de nage. Nous allons bien entendu parler cohérence, définition de la réussite qui nous est propre et bien personnelle, comme vous allez pouvoir l'entendre. Et surtout, nous parlons de l'importance d'évoluer dans un environnement qui nous plaît et nous permet de nous épanouir. J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute! Merci Camille.
Merci à toi.
Alors avant de commencer, je vais te poser une petite question que j'ai commencé à poser aux gens à chaque fois qu'on se rencontre. Mais j'ai oublié de le faire avec Anne.
Ah.
C'est l'exception qui confirme la règle. Est-ce que tu pourrais me dire, quand t'étais petite, tu rêvais de faire quoi plus tard?
Oh là là, Ah, j'étais une enfant un peu étrange. Enfin, j'ai voulu faire plein de trucs complètement différents. Mais genre, toutes les semaines, je changeais d'idée, tu vois. Genre, une semaine, je voulais être fermière. Une autre semaine, je voulais être dentiste. Enfin, des trucs qui n'avaient jamais beaucoup de sens, en fait. Enfin, c'était un peu ma lubie d'enfant. Après, je sais pas si ça compte du coup, mais quand j'étais au lycée, je voulais être chef d'orchestre.
Combien ?
Ce qui est stylé, mais en fait, enfin, c'était un peu complètement utopique parce que je venais juste d'apprendre le violon. En fait, à cette époque-là, je faisais de la guitare depuis 5 ans, et je me suis mis au violon et j'adorais ça et je trouvais que c'était un super métier, en plus un peu symbolique, tu vois, il y a pas beaucoup de femmes chefs d'orchestre et tout, mais en fait, enfin, il faut avoir fait énormément de solfège, enfin, j'en avais jamais fait, enfin, mais bon, c'était une petite lubie, comme j'en ai beaucoup.
Et du coup, aujourd'hui, tu fais quoi?
Aujourd'hui, je suis sales development representative chez Textmaster, qui est une start-up, bah, plus si start-up, mais quand même vachement start-up dans l'esprit encore aujourd'hui, de traduction.
Ok. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être chef d'orchestre ou d'être fermière.
Rien à voir.
Et justement, comment t'es arrivée à ce poste aujourd'hui? T'as fait quoi auparavant? Parce que nous, on s'est rencontrés quand on était en école. Mais depuis, qu'as-tu fait? Et avant l'école, d'ailleurs, qu'as-tu fait? Parce que tout le monde ne te connaît pas.
Oui. Bah, du coup, quand je voulais faire chef d'orchestre, j'étais en S au lycée, filière scientifique. Et ensuite, j'ai fait une prépa littéraire pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ça m'a trop plu. Enfin, c'était vraiment incroyable. C'était un peu, je vivais un peu un rêve de pouvoir enfin découvrir à fond des domaines qui me passionnaient et en plus des domaines où j'avais le sentiment que j'en savais pas assez en fait au lycée. J'avais pas assez appris sur la littérature, sur l'histoire et tout. Et je me suis dit, allez, je me donne 2 ans pour à fond explorer les trucs, les vraies matières qui m'intéressent. Et c'était trop cool. Et ensuite, je suis rentrée à l'UM Lyon, où on s'est rencontrés. Du coup, école de commerce.
Et attends, mais je reviens sur ce que tu disais il y a un instant. Mais j'ai l'impression que t'as vécu un peu la prépa comme une parenthèse. Dans ce que tu dis, j'ai enfin étudié les matières qui m'intéressaient. Mais la façon dont tu dis, c'est un peu comme si tu savais que c'était temporaire.
Ah, ouais, je sais pas, c'est marrant. Une libération parce que, faut reprendre dans le contexte, je venais juste de faire 3 ans de filière scientifique qui me saoulait de ouf. Enfin, clairement, c'était pas mon dada, la physique et tout ça. Et j'en ai un peu souffert, enfin, ça m'a saoulé. Donc du coup, je me suis dit, ah là, je vais enfin me mettre à fond dans des matières qui vraiment m'intéressent. Parce que pour le coup, au lycée, j'ai découvert à quel point la philo et le français m'intéressaient énormément. Et parenthèse, parce que je pense que je me suis jamais projetée vraiment dans une carrière littéraire. Je ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Aussi parce que moi, je suis très au jour le jour. Donc à cette période-là de ma vie, je me projetais pas, juste je vivais à fond dans l'apprentissage, la soif de connaissances et tout, et je me suis jamais projetée dans une carrière littéraire, donc, ou qui s'en approchait.
Ok. Mais tu t'es déjà projetée dans d'autres choses, du coup?
Non, justement. Non, je me projette jamais, enfin, ou pas souvent, c'est un peu mon... Je vis vraiment au jour le jour, quoi. J'ai du mal à me projeter. Parce que je trouve qu'il y a tellement de choses qui changent tout le temps. Enfin, surtout quand t'es jeune, en plus, je trouve que tu évolues tout le temps. T'apprends plein de trucs tout le temps. Et du coup, j'ai jamais tenu un cap, tu vois. Et j'ai jamais eu un objectif, genre, bah, depuis toute petite, je veux faire infirmière et je suis infirmière. Enfin, pas du tout. Genre, j'ai toujours un peu navigué. Et au gré de mes rencontres, de mes opportunités, j'ai pris la décision pour le step d'après. Mais je n'ai aucune idée du step, genre dans 5 ans, dans 10 ans. Okay. Comme la fameuse question aux entretiens, je ne sais pas du tout quoi.
Et justement, aux entretiens, qu'est-ce qu'ils te disent sur les différentes décisions que tu as prises dans ta vie? Parce que tout à l'heure, on en parlait sur toutes les questions de cohérence, le fait que tu es passé en S, que tu es allé en littéraire, après tu es allé en école de commerce. Et là, tu es en sales, je sais pas quels autres stages tu as fait avant, mais... Quel rapport, du coup, t'as avec cette cohérence et les entretiens? Est-ce que les entreprises ont aussi un rapport qui est différent, peut-être, du tien?
Ouais, bah, on pose toujours la question, pourquoi t'as fait ça, puis ça, puis ça. Moi, j'arrive vraiment à bien répondre à cette question-là, parce que j'estime que à chaque moment de ma vie, les décisions que j'ai prises étaient cohérentes à ce moment-là. Donc, j'arrive toujours à les justifier. Donc j'ai pas de problème avec ça. J'ai bien conscience qu'il y a des gens qui trouvent ça pas cohérent ou quoi, mais enfin mince, on est quand même des personnes, on a tous nos dualités, nos ambiguïtés et tout, et je trouve ça un peu dommage de dire ah c'est pas cohérent. Bah non, juste on est des personnes très diversifiées, on aime plein de choses différentes et ouais, j'avais envie de tester différentes choses à différents moments de ma vie. Et donc pour te répondre, qu'est-ce que j'ai fait avant? Plein de choses différentes. C'est marrant, pendant un moment à l'UM, je m'étais dit ah je vais faire un job qui va changer le monde entre guillemets, tu vois, un job à impact. Mais c'était un peu flou pour moi, je savais pas trop comment ni mais je savais que je voulais avoir un impact positif, et donc du coup j'ai fait un stage en développement durable. Et ça m'a pas du tout plu. Parce que après, ça dépend des structures et tout, mais moi, la structure dans laquelle j'étais, c'était une boîte qui n'avait pas été créée avec déjà comment dire, le côté développement durable ne faisait pas partie de sa raison d'être. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un peu plus la conviction aujourd'hui que quand une boîte est créée et qu'elle a un but dans son cœur de business qui est engagé, c'est beaucoup plus simple. Mais quand c'est une boîte qui de base est pas engagée, genre mettre de la RSE et du développement durable dans une boîte qui est pas engagée, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà d'un point de vue genre process interne et tout. Et moi, je me suis heurtée vraiment à des process ultra rouillés où en fait tu pouvais faire bouger aucune ligne parce que c'était pas du tout dans l'engagement n'était pas du tout dans le cœur de business de la boîte, et clairement ça leur rapportait aucun sou, enfin bref. Du coup un peu frustrant du coup parce que je me suis heurtée à tout ça. Et deuxième point, c'est que en termes de la fonction même, c'est pas un job où je pense que je peux vraiment m'épanouir parce que j'ai besoin de contact client, je suis assez sociale et j'ai besoin d'être dans l'interaction, et je pense que c'est un peu un type de poste où, enfin j'en sais rien, après franchement je dis ça basé sur l'expérience que j'ai eue, mais c'est un poste un peu planqué quoi. Et moi, je peux pas rester derrière mon ordi toute la journée, ou même rien que faire que des réunions. Enfin, ça me gonfle. J'ai besoin d'être en contact avec vraiment des gens. Et tu vois, le boulot que je fais aujourd'hui, où il y a beaucoup de contacts clients et de convictions, c'est un truc. Ça, il y a un enjeu, il y a un truc. Tu vois, c'est vivant et ça me parle quoi.
Ah, c'est marrant. Et ça, tu le. Enfin, sur les questions, je reviens sur ce que tu disais sur. Le développement durable, et si t'as pas commencé ton entreprise avec cette volonté d'avoir un impact positif sur le monde, c'est pas forcément possible de changer tous tes process, etc. Est-ce que Est-ce qu'aujourd'hui, t'as laissé un peu de côté justement ces questions d'impact dans ta vie pro à cause de ce stage ou pas du tout?
Oui, alors j'ai laissé de côté parce que le stage m'a un peu dégoûtée sur le coup.
Ok.
Et aussi parce que je te dis, je me suis dit que c'était pas, en termes de personnalité, de tempérament, je pense que c'était pas forcément adapté à moi non plus. Je l'ai un peu laissé de côté, mais pour d'autres raisons aussi.
Ah ouais?
Parce que, déjà c'est beaucoup plus compliqué et parce que, mine de rien, j'ai un impératif quand même qui est de rembourser mon prêt.
Ok.
Et que c'est quand même des jobs généralement moins payés, moins bien payés. Et après, enfin, ouais, genre j'ai fait un peu. En fait, je me suis aussi un peu ouvert mon esprit. J'ai un peu ouvert mon esprit. Je me suis dit, ok, Camille, bon, c'est très bien, une boîte à impact, ce serait l'idéal, honnêtement, parce que je suis engagée dans ma vie perso, donc j'aurais bien aimé avoir un impact dans ma vie pro. Mais au final, tu vois, j'ai décidé d'un peu élargir mes horizons. Il y a aussi eu le contexte Covid qui a fait que, j'avais pas beaucoup d'offres. Et je me suis dit, bon c'est pas grave. Ouvre tes horizons, regarde ce qu'il y a, et tu vois, au final, j'ai eu une opportunité. Franchement, j'aurais jamais pu imaginer que je finirais dans une boîte de trad. Non, mais vraiment, enfin, je me suis jamais dit yes, c'est trop ça que je veux faire. Enfin, mais le fait est qu'aujourd'hui, je suis hyper épanouie dans cette boîte et dans ce boulot-là. Et au final, aussi, je pense, faut savoir être à l'écoute d'opportunités au-delà de de l'idée que tu t'avais pu te faire avant, quoi.
Ok. Et est-ce que, je te pose la question, mais c'est ce que j'y réfléchissais avec une amie il y a pas très longtemps, sur justement comment tu fais pour arriver à toi être engagée dans ta vie personnelle, et pas forcément être dans un métier ou dans une entreprise qui cultive ces mêmes valeurs. Bon après là t'es pas forcément en dissonance comme une boîte de trad, c'est quand même aussi aider les gens à, j'allais dire quand même à lire différentes choses, à se cultiver, etc. Mais c'est une grande question que j'ai et que je te pose. J'ai vraiment pas la réponse.
Ouais, je sais pas, je vois pas trop ça comme une dissonance, même si en soi c'est vrai que boîte de trad, enfin on joue quand même sur un truc qui est l'internationalisation, qui est quand même un truc ultra, voilà, la mondialisation, qui est quand même pas ouf, hein, on se rend compte qu'il faudrait qu'on vive plus localement, donc moi, mon moi perso est au courant que c'est pas ouf.
Ok.
Et je le sais, et j'ai mon propre avis sur la question. Maintenant, j'arrive vachement à mettre ça de côté dans mon taf, parce que je pense qu'il y a deux choses à dissocier. Il y a mon taf et comment...
Ah ouais ?
En fait, avant, je t'aurais grave dit « Je pourrais pas faire un boulot qui a aucun impact sur le monde. » Vraiment, la Camille d'avant t'aurait dit ça, hein, clairement.
La Camille.
Mais aujourd'hui non, parce que il y a plein d'autres facteurs qui sont entrés en compte, tu vois. Il y a il faut quand même que je trouve un boulot qui m'apprenne des choses, un boulot où je me sens bien, donc avec des gens cool, un environnement, et aussi la structure de boîte, enfin il y a plein en fait, je me suis rendu compte au fil de mes expériences qu'il y avait plein de facteurs hyper importants pour moi et qui ont fait que je pouvais plus juste me dire, enfin juste prendre comme condition une entreprise à impact.
Ok.
Ça suffisait plus pour moi.
Ah. Oh.
Pour moi, c'était devenu plus important d'être dans un environnement avec des gens bienveillants, avec qui je savais que j'allais pouvoir travailler, avancer et apprendre, et aussi une structure de boîte qui me permette de pas me sentir enfermée. Donc là, tu vois, typiquement, je sais que c'est une boîte hyper agile où je suis, où hyper tout le monde se connaît, tout le monde est hyper ouvert, et c'est pas une boîte énorme où tous les process sont très très bien définis et où je sais pas, où tout est tellement bien ficelé que rien ne bouge et que, enfin, ça m'intéresse pas trop. Ça me va pas en fait.
Et justement, comment t'as fait pour apprendre au fur et à mesure de tes expériences ce qui t'allait et ce qui t'allait pas? Parce qu'on est quand même au début, tu vois, de notre vie professionnelle. Toi, t'as été diplômée l'an dernier, si je me trompe pas.
J'ai été diplômée en janvier.
Oh, félicitations.
Merci.
Tu es même diplômée avant moi.
C'est vrai. Énorme.
Mais ouais, du coup, comment t'as réussi un peu à faire le tri dans tous tes besoins et savoir quelles étaient tes propres priorités pour commencer ta vie professionnelle?
Mes expériences, ça m'a tout appris. Enfin, genre, en gros, mes stages, ça m'a vraiment énormément aidé. C'est bête parce qu'au final, là, je me retrouve dans une boîte qui ressemble vachement à mon tout premier stage, dans lequel je m'étais dit, ah non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Alors qu'au final, enfin, c'est marrant, mais c'est avec d'autres expériences qui se sont moins bien passées où je me suis dit, ah mais en fait, enfin, je m'étais pas rendu compte de tout le positif qu'il y avait dans ce type de boîte et dans ce type
Ok.
de... et que ça me correspondait mieux. En fait, donc j'ai eu deux expériences, on va dire, allez, deux expériences vraiment nulles de stage. Deux stages
Ok.
vraiment... Enfin... Nul. Comment dire? Alors, une où vraiment je me suis sentie inutile, et bah, du coup, le stage de développement durable, où vraiment je me suis dit, mais en fait, ce genre de poste, c'est censé être un poste où tu te sens hyper impactante, où tu changes le monde, et j'avais l'impression d'être la plus inutile possible. Genre, mais vraiment, parce qu'en fait, c'était ultra superficiel, ultra... Alors que... Enfin, greenwashing, etc. Franchement, faut pas se mentir, mais la plupart, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, dans mon boulot, je me trouve hyper utile. Et il y a rien de tel que se sentir utile. C'est hyper important dans un job. Et ce stage-là aussi, je me suis rendu compte que la structure de boîte me convenait pas.
Ok.
C'était que des gens qui étaient là depuis 30 ans.
D'accord.
Une vieille boîte qui voulait rien changer. Qui voulait... Et c'était... J'étouffais, moi, là-dedans. Vraiment,
Ok.
c'était pas... Moi, j'ai besoin d'un environnement où les choses bougent, où les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Donc ça me convenait pas. Et ma deuxième expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain type de management qui me correspondait pas. Et que, en fait, les gens avec qui tu travailles, c'est ultra important. En fait, les missions, c'est important, mais au final, je me suis rendu compte que pas tant que ça, parce que les gens avec qui tu interagis au quotidien vont faire que ton boulot, il est génial ou il est infernal.
Oui.
Enfin, ça change, c'est un filtre, en fait. Peu importe, tu peux faire la mission de poste, enfin, qui te vend le plus du rêve, mais si t'as un manager qui est ultra toxique, ou si t'as une équipe qui est juste, enfin, qui te correspond pas du tout, qui est vraiment désagréable et tout, mais en fait, tu pars, en fait, de ce boulot.
Oui, bah après tu pars pas forcément, mais t'en souffres,
T'en souffres, t'en
ouais, t'en
souffres.
souffres beaucoup.
Voilà.
Et aussi, enfin tout à l'heure, tu me disais que t'avais le côté, j'allais dire horaire, qui te permettait de cultiver, de faire plusieurs choses à côté. Et est-ce que, enfin, ça revient un peu à la question que je te posais tout à l'heure sur le fait d'avoir des engagements personnels et une vie pro, mais est-ce que t'as besoin un peu de cloisonner tout ça pour pouvoir
Oui.
avoir tes activités sur le côté et nourrir un peu ta créativité et à côté avoir ton taf? Ou t'aimerais bien à terme pouvoir un peu tout, enfin je fais ce geste qui ne veut tout et absolument rien dire, mais à réussir à un peu tout faire cohabiter.
Alors attends, j'essaie de... Comment je vais prendre cette question?
En fait, j'arrive pas à me rendre compte non plus si ça peut t'aider de sur, enfin sur ton volume horaire de la semaine, comment t'arrives à t'organiser pour te faire là, tu vois, je vois les collèges en face de nous. Tu me disais que tu faisais de la musique, que t'avais plein de choses à côté et
Ouais, alors la musique j'en fais plus trop,
ouais.
mais oui, je fais plein, en fait je fais plein de choses à côté, c'est vrai, genre, enfin bah, du coup je fais des collages, je fais de la danse, enfin, de la pole dance,
Trop cool.
ouais, c'est vraiment trop cool. Et à côté de ça, voilà, je vois beaucoup de monde, j'adore, bon là, on va enfin pouvoir reprendre, mais j'adore aller au musée, faire des expos, enfin faire des spectacles de danse, enfin. Du coup, ouais, c'est compliqué de tout concilier. Après, je suis assez bien organisée. Je suis quand même quelqu'un de très organisé, donc j'arrive à tout caler dans ma semaine, tu vois. Genre, j'arrive à faire du sport minimum une fois tous les 2 jours, par exemple.
Ah ouais.
Mais parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment nécessaire pour que je me sente bien. Pour le moment, tout se goupille bien. Et effectivement, j'ai besoin de pas faire trop d'horaires. Mais ça, de toute façon. Je suis dans une boîte où c'est ça se passe hyper bien, et ils sont ultra enfin ils comprennent complètement ça, tu vois, que t'aies une vie à côté et que t'aies une vie surtout même quand t'as pas une famille, parce que moi je trouve ça
Ah
assez toxique dans les entreprises où en fait tant que t'es célibataire bah t'as pas de vie, t'es célibataire, donc du coup tu peux faire des horaires. Ah, bah bien sûr, ouais. Alors ça marchera jamais avec moi. Parce que j'ai une vie en fait, enfin, que j'ai des gosses ou pas, je trouve ça hyper blessant de dire que t'as pas de vie. Bah non, j'ai plein de... J'ai une vie sociale hyper intense, j'ai plein d'activités, et je compte bien ne pas faire des horaires à pas d'heure, tu vois. Moi, je pourrais pas, j'ai des potes, voilà, qui finissent à 21h, même minuit dans la finance, je ne pourrais pas faire ça, c'est pas possible. C'est pas du tout ma vision de la vie, en fait. J'ai besoin de profiter. Maintenant, pour répondre à la suite de ta question sur est-ce que j'ai pensé à goupiller les deux, ben ouais, j'ai pensé un peu. Ben après, c'est un peu loin de me dire qu'un jour je pourrais vivre de mes collages. Genre, ça me paraît un peu très très loin quand même. Ça pourrait être ouf, ça pourrait être ouf en vrai, mais franchement, honnêtement, j'y crois pas du tout pour le moment parce que d'un point de vue financier, enfin non, financier, c'est pas, ça serait pas tenable. Enfin, là, j'ai un salaire qui me permet de payer mon loyer et mon prêt étudiant et j'en suis hyper contente. Et clairement, il faut que j'ai une rentrée d'argent pour avoir ces deux trucs, pour payer ces deux trucs là. Donc pas trop d'actualité pour les collèges. Après, j'avais aussi eu un écho de quelqu'un que j'avais rencontré pendant que j'étais jeune fille au pair en Corse et qui m'avait dit... En fait, lui, il bossait dans un festival de musique et il me disait... il m'avait un peu découragé pour bosser dans la culture parce qu'à l'époque, je voulais bosser dans la culture parce que ça me passionne. Et il m'avait dit « Ah, mais tu verras, ça te dégoûte un peu du milieu. » Et en fait, ça m'avait vachement atteinte à l'époque. Je m'étais dit, ah bon, et tout. Et en fait, j'avais vachement réfléchi. Je m'étais dit, mais je veux pas être dégoûtée de ce qui me passionne, en fait. Et après, et en final, je pense qu'il avait pas tout à fait tort dans le sens où le milieu culturel, c'est un peu un milieu où, au final, il t'exploite parce qu'il part du principe que c'est ta passion. Un peu comme les jeux vidéo, j'avais eu ces retours-là. Quand tu bosses dans ce milieu-là. Non mais enfin oui. Que dès que tu bosses là-bas, c'est ah mais attends, mais tu veux te payer plus, mais c'est ta passion. D'accord. Ben enfin ce genre de truc, tu vois.
Ah oui, un peu comme
Moi j'ai du mal, je suis désolée mais non.
Ouais. Oui, et donc est-ce oui, mais en soi je vois très bien, je pense à des groupes Facebook plus de freelance en création de contenu ou vraiment un peu des artistes auteurs. Qui mettent des citations de leurs clients, qui disent ah mais vous créez des choses et vous voulez être payé, mais normalement vous êtes passionné donc vous devriez pouvoir créer ça quand vous vouliez. Et est-ce que justement t'as eu cette réflexion aussi pour les collages que tu disais que t'aimerais bien en vivre, mais là t'as commencé à en vendre. Et est-ce que t'as eu un peu cette réflexion de c'est ma passion, donc je sais pas forcément si je vais la monétiser ou pas.
Complètement.
Ah, alors ok.
Donc complètement parce que je me dis, au final, Camille, franchement, ça va, ça te plaît, tu fais ça sur ton temps libre, et peut-être que si tu faisais ça tout le temps, ça te saoulerait, tu serais un peu, ça te plairait moins, quoi. Je sais pas.
Ok.
Je sais pas. Honnêtement, mais c'est vrai que j'ai toujours cette réserve de bosser vraiment à fond dans un truc culturel ou artistique. Je sais pas. Je sais pas. Je me pose la question.
Ah mais c'est marrant parce que de ce que tu me disais tout à l'heure sur tes passions dans ton enfance, le rythme de vie que t'as aujourd'hui, je me demande aussi si et vraiment là, mais j'interprète de ouf, si c'est pas aussi ton mode de fonctionnement d'avoir plusieurs choses en même temps.
Ah
c'est un peu pour éviter de, enfin je sais pas, en prépa c'était aussi ça, on travaillait à fond sur différentes choses mais on silo, enfin il y avait quand même des gros silos entre les matières et donc on enfin, moi, j'ai tendance à me passionner, à devenir un peu obsessionnelle sur certains sujets, mais je les creuse en profondeur et je me lasse assez facilement. Et donc, je me demandais si t'avais un peu ça aussi, genre si t'avais différentes phases parce que t'aimais bien creuser différentes choses différentes, je sais pas.
Ouais, c'est intéressant. Ouais, j'imagine que j'ai eu des phases, clairement. Après, c'est marrant, t'en parles. Enfin, en fait, oui, j'ai toujours besoin d'avoir plusieurs trucs.
Okay.
J'arrive pas trop à être monopassion. Non mais enfin je trouve ça hyper stylé mais ça fonctionnerait pas avec moi parce que en fait j'adore découvrir de nouvelles choses et oui tu vois j'arrêtais un peu la musique bon je continue un peu mais beaucoup moins et mais pour découvrir d'autres trucs et
finalement
je finis pas de m'enrichir
mais alors comment t'as fait tu sais, en école, on demande quand même... Enfin, je pense à l'école, mais même à partir du lycée, on nous demande souvent de nous spécialiser. Tu vois, faire un bac S, un bac L, choisir... Bon, après, la prépa, c'est un peu un non-choix.
T'es ouf. Clairement.
Tu peux tout faire, mais tu choisis quand même. C'est ça, tu choisis un peu si tu veux faire une prépa éco, une prépa L ou une prépa S. Mm. Mais après, tu vois, en école, on demande quand même de choisir des tracks au bout d'un moment et de commencer à spécialiser. Donc, comment t'as fait et comment tu l'as vécu?
Bah justement, je suis arrivée au bon moment à l'EM, parce que c'est le moment où ils ont arrêté, tu sais, de faire Et en fait, du coup, c'est à la carte. Et j'étais pas obligée de me spécialiser. Et là, moi, j'étais en mode, mais yes, putain. Mmh. Je voulais pas me spécialiser, je savais pas du tout dans quoi. Et justement, j'ai continué jusqu'à la fin de l'EM à faire, comme j'ai toujours fait, au feeling, de prendre les cours qui me disaient bien, d'éviter tous les trucs qui me faisaient chier. Et du coup, j'ai fait des cours hyper intéressants, pour le coup. Ma dernière année à l'EM, enfin, franchement, mais... C'est vraiment génial. Et des trucs un peu qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, mais...
Ok.
Mais qui m'intéressaient.
Ah, t'as tellement de chance.
Donc, je ne me suis pas du tout spécialisée.
Okay. Donc, en soi, t'as jamais trop fait de choix.
Tu me mets en face de ma psychologie.
Non, mais j'ai en train de me dire, mais t'as trop de chance.
Je sais pas, ouais. Je sais pas trop. Mais d'ailleurs, tu sais que c'est une question qu'ils posent souvent en entretien. C'est, du coup, c'était quoi votre spécialité? J'en avais pas. Mmh. Et du coup, bon, moi, j'arrive vachement bien à
ouais.
Bon, je me défends, tu vois, j'explique et tout.
Mais si tu utilises vraiment un vocabulaire guerrier, je me défends. J'ai sorti le bouclier.
Vraiment? Non, mais oui, enfin, genre, je sais l'expliquer. Mais c'est vrai que ça peut dérouter les boîtes. Ils sont en mode, bah non, mais je comprends pas. Tu postules pour du marketing, mais au final, t'as pas de majeur marketing. Mais du coup, je leur dis, bah oui, mais j'ai fait des cours en marketing. Enfin. C'est un peu. Et puis, mais tu sais que c'est très déroutant parce qu'au final, en quittant l'EM, j'étais en panique totale parce que je me suis dit, mais je sais faire quoi en fait? Genre, je vais faire quoi?
Ouais.
Parce que au final, j'avais l'impression de. Enfin, j'avais appris quelques trucs à l'école, mais je me suis dit, mais je me projetais dans aucun poste. Et donc, en fait, même tu vois, aujourd'hui, le fait d'être sales, c'est vraiment un parcours. C'est-à-dire que j'ai fait un taf, un job étudiant.
Okay.
Que je faisais en parallèle de l'EM. Et qui était un peu un peu relation enfin client un peu enfin je vais pas te détailler mais c'était très cool et d'expérience en expérience je me suis rendu compte que il y avait certains trucs qui me plaisaient grave la sales quoi la prospection le truc que personne n'aime.
Oui. Vraiment tu l'as vu à ma tête.
Ouais non mais j'ai toujours la même réaction t'inquiète. J'ai l'habitude mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des aspects qui me plaisaient trop typiquement être au BDA à l'UM au bureau des arts. J'ai fait ça aussi pour des arts, de la prospection, et genre je kiffais trop. Je me suis dit, mais attends, il y a peut-être un truc là et tout. Enfin, en fait, mais ça va avec mon côté de ma personnalité d'aimer la nouveauté, d'aimer aller à la rencontre de nouveaux trucs, de me tester, de le contact avec les gens. Enfin, en fait, ouais. Donc, je comprends pourquoi aujourd'hui je suis où je suis. Mais je comprends que ce soit pas du tout évident pour la plupart des gens. Quand ils ont genre mon CV sous les yeux. Ouais. Je comprends.
Mais c'est marrant que... Enfin, moi j'ai jamais passé d'entretien classique, vraiment, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Vu que j'ai surtout baigné dans les startups dû à ma majeure en entrepreneuriat. Et j'avais l'impression, en lisant et en écoutant pas mal de podcasts, qu'on commençait à parler beaucoup, tu sais, de parcours qui seront assez éclectiques pour nos générations, de marché du travail qui est en train de se disrupter, et du fait que même nous, on va jamais faire le même taf pendant nos années, parce que, enfin, nos années sur le marché du travail, parce que de toute façon, ça va évoluer tellement vite qu'on sera obligé de se réinventer tout le temps. Et donc, j'avais l'impression que même pour les grandes entreprises ou les entreprises un peu plus classiques, t'avais un rapport qui commençait aussi à changer sur la façon dont ils considéraient pas forcément le CV mais le fait que t'es pas forcément de majeur ou autre. Donc ça m'étonne un peu que t'aies été confrontée à ça.
Ouais, bon après tu sais c'est une question un peu facile hein, quand ils ont le CV sous les yeux, mais oui je vois, oui si j'espère que t'as raison et que même les entreprises classiques se renouvellent et tout. Et clairement, moi, oui, je me vois pas du tout rester dans la même boîte pendant 10 ans, c'est hors de question. Mais rien que d'un point de vue complètement apprentissage, enfin, au bout de quelques années, t'as fait le tour hein, d'une fonction et tout. Oui. t'as besoin, moi j'ai besoin d'être en mouvement, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, enfin, c'est aussi une façon de progresser, tu vois. Je sais pas, mais je trouve ça cool de tout le temps changer.
Non, en plus, ça te permet, bah, c'est ce que tu disais, d'apprendre différentes choses, donc de jouer des cordes à son arc, et de pouvoir un peu continuer à faire... Et est-ce que t'as... Pardon, c'est une question qui n'a absolument rien à voir. Mais tout à l'heure, tu parlais de ton prêt étudiant. Et est-ce que t'as l'impression qu'une fois que t'auras remboursé ce prêt et que t'auras pas forcément autant de contraintes financières, tu changeras aussi plus facilement de travail? Parce que j'ai parlé avec peu de... En vérité, j'ai parlé avec peu de personnes qui avaient cette contrainte de prêt. Ou alors, si elles l'avaient, c'était... un peu comme Ornella, quand je crois que t'étais présente, qui disait que ses parents avaient repris un peu le flambeau pour elle, que c'était moins un souci, et donc j'avoue que du coup je sais pas forcément comment tu gères ça et de quelle façon tu t'abordes ça pour les élèves.
Je l'aborde avec pragmatisme, aujourd'hui, parce que voilà, c'est une contrainte avec laquelle je dois dealer, mais comme beaucoup d'étudiants, et voilà, et puis c'est normal, enfin... mais effectivement, ça influe aussi sur mes choix pro, tu vois. Peut-être que le jour où j'aurais pu le payer, je serais plus ouverte à des postes qui me plaisent, enfin pas qui me plaisent plus, mais enfin peut-être que j'aurais un autre rapport au, enfin peut-être que je me sentirais plus libre de prendre des trucs un peu, peut-être de revenir à un truc à impact, peut-être, j'en sais rien. Mais peut-être que je me sentirais plus libre, ça c'est certain, d'un point de vue financier. Après, j'ose espérer que dans 5 ans. Quand j'aurai fini de le rembourser, j'aurai mon salaire qui, normalement, aura augmenté. Je l'espère. Donc, ça devrait aller, tu vois, mais après, franchement, je suis vraiment pragmatique. C'est juste une variable avec laquelle je dois dealer, et puis c'est tout. Mais du coup, effectivement, je suis vachement pragmatique, tu vois. Je me dis, je m'estime heureuse aujourd'hui d'avoir un taf qui me plaît, dans un environnement dans lequel je me sens bien et tout, c'est pas mon job de rêve, mais en fait j'ai vachement désacralisé ce truc du job de rêve, tu vois, genre job passion et tout. Je suis grave en mode je fais un truc, ça se passe bien, c'est cool, en plus je peux payer mon prêt et tout, mais en fait c'est génial, tu vois, si t'as déjà tout ça, genre je suis heureuse.
C'était quoi pour toi job de rêve? C'était genre taf idéal ou
taf idéal, genre taf passion, par exemple faire des collages, ou alors taf à impact. C'est un peu un job de rêve, genre, moi, je change le monde, quoi. Enfin, trop stylé.
Ouais, mais tu changes le monde, mais de façon, oui.
Ouais.
Oui, j'avoue que j'ai moi aussi évolué sur ces questions. Si t'es sur ton ordi, tu changes le monde, mais tu le vois pas forcément non plus.
Ouais.
Donc, c'est pas... C'est aussi un peu compliqué, je trouve, toutes tes questions dans le SS. Et se dire, je change le monde, mais comme tu disais tout à l'heure, tu vois, est-ce que c'est vraiment l'impact qui est... au cœur de mon métier, est-ce que c'est un peu une couche de vernis qui fait qu'un jour ça peut sauter facilement Moi, une de mes grandes questions, c'est aussi par rapport à tout le mouvement qu'il y a des écoles en réaction à nos demandes en tant qu'étudiants et une nouvelle génération d'avoir plus ce truc de RSE. J'arrive pas à savoir non plus, et tout à l'heure quand t'as parlé de si l'impact n'est pas au cœur de la mission, et tous ces trucs de on devient entreprise à mission, on ajoute des cours, on essaye de faire en sorte d'ajouter cette corde à notre arc. J'ai beaucoup de mal à adhérer à ça. Et surtout à avoir le côté non greenwashing de la chose.
Il y en a pas. Pour moi, c'est du bullshit. Mais je te le dis vraiment. Voilà, c'est un peu tranché, mais avec toute la bonne volonté du monde qu'on peut avoir. Après, tu sais qu'il y a une petite ambiguïté quand même, parce que du coup, moi, j'avais fait mon mémoire sur la RSE.
Ok.
Bizarrement, en fait, les entreprises qui sont pas nées avec l'impact au cœur de leur business, c'est quand même des boîtes qui ont de la thune généralement et qui du coup ont plus de thune à mettre dans la RSE.
Ok.
Je pense par exemple à Total, pour ne pas les nommer,
ah,
que j'avais pu interviewer, et en fait, tu te rends compte que ils font plein de trucs en RSE, mais parce qu'ils ont de la thune. Et tu rentres un peu dans ce truc-là complètement absurde où, en fait, Total, enfin... Non, mais...
Total.
C'est marrant, quand même. Ouais. Et au final, tu peux pas trop cracher sur eux parce qu'ils ont la thune et... c'est triste, mais aujourd'hui, pour faire que le monde soit un monde meilleur, il faut de la thune.
Ouais.
Il faudra toujours de la thune pour tout.
Oui.
Je sais pas, c'est ambigu.
Mais j'arrive pas à savoir, du coup, dans quelle mesure tout va vraiment changer ou ne pas changer du tout. C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux qui est assez difficile à... Bah ouais, à aborder. Mmh. Mais ça, c'est vraiment des questions de... J'ai l'air de beau, mais c'est pas vraiment une question de beau.
Non, pas forcément. Enfin, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est pas... Je pense que les choses évoluent, mais c'est pas ultra flagrant, parce que... Mais bon, les choses mettront toujours du temps à changer, hein. De toute époque, de tout temps, ça a mis du temps pour que les progrès se fassent.
Ouais, mais c'est... Enfin, c'est pas forcément triste, mais c'est intéressant. Et je
non,
sais pas,
pas
ouais. Oui.
Enfin, bon, ça peut être un peu déprimant, hein, la question
oui,
climatique et tout ça, mais honnêtement, faut prendre du recul, enfin...
Ah oui, non, je pensais pas tant à la question du climat, mais plus à toutes les questions de greenwashing.
Ah oui.
Parce que je me disais, tu sais, même en termes d'éducation, on essaye d'accompagner les étudiants pour qu'ils soient plus aussi dans une démarche RSE, ou du moins donner l'impression qu'on l'est. Et c'est pour ça que j'arrive pas non plus à savoir à quel point on va pouvoir nous aider à mieux savoir quelles sont... Mais tu vois, moi, c'est ce que je dis toujours, mais mes valeurs, mais ne serait-ce qu'en termes de... développement de la planète, etc. Et je sais pas si on va nous aider à trouver ce compas-là aussi. Tu vois.
Je sais pas. Ouais, en plus, franchement, l'EM nous donne pas beaucoup de cours là-dessus, elle nous aiguille pas beaucoup. Après, peut-être que là, c'est plus le cas avec les nouvelles générations, je sais pas.
Je sais pas non plus. Est-ce que toi, t'as conscience... Vraiment, je digresse. Mais...
Ça, c'est digresse.
Mais non, mais ta conscience écologique, et tu me disais que t'étais très engagée à côté, mais elle est née, est-ce qu'elle est née plus avec l'école et justement un peu un enseignement qu'on t'a donné dans tes différentes expériences, tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses à changer ou ça n'avait rien à voir?
Non, rien à voir.
Ok.
C'est venu de vraiment perso, dans ma sphère perso. J'ai une très bonne copine qui m'a ouvert les yeux avec un documentaire que je conseille à tout le monde d'ailleurs, qui dure 40 minutes. Ça s'appelle « Les jeux vidéo vont-ils disparaître ?» En fait, ça, c'est un angle un peu fun, juste pour aborder la question des ressources.
Ok.
Et en vrai, ça a un peu été le début, moi, de ma conscience écologique, de mon engagement après. Enfin, c'est un grand mot, hein, tu vois, Je veux pas non plus... Enfin, on fait ce qu'on peut, tu vois.
Oui, j'ai vu que tu ne triais pas.
Mais si ! T'as pas vu ma poubelle à la carte ? Sur mon frigo. Bon, non, mais ouais... Et oui, du coup, juste ce documentaire a vachement ouvert les yeux. Ça a donné lieu à des lectures, à beaucoup de machins, de prises de conscience, voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est important pour moi. Je mange... Enfin, on peut dire que je suis végétarienne, car moi, je mange presque jamais de viande, enfin... Donc, voilà. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça que je fais.
Oui, mais, ouais. Mais en fait, ce qui m'intrigue, et j'y reviens toujours sur... J'arrive pas à comprendre... Enfin, après, je pense que c'est aussi, moi, mes biais. Je me dis, du coup, je comprends pas forcément comment tu... Enfin, comment t'as toute cette conscience écologique et tout ce bagage, sans forcément aller vers des entreprises qui sont dans cette démarche.
La thune ?
Ouais, oui.
La thune et le reste, en fait. Tout ce que je t'ai dit.
Ouais.
En fait, c'est une question... Honnêtement, je pense que chacun doit trouver quels sont les facteurs qui sont les plus importants pour eux, tu vois. C'est un arbitrage. Franchement, évidemment que si... ce serait le pompon, là, tu vois. Si, ce serait ouf si, genre, ma boîte, elle était engagée. Genre, ce serait dingue. Ce serait, la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. J'ai plein de trucs géniaux. Je me concentre là-dessus et... Ouais.
Et t'as pas pensé à, justement, mener un peu... Enfin, les aider à peut-être prendre conscience sur toutes ces questions-là? Ou ça, tu penses que ça les intéresse pas?
Non, parce que c'est pas dans le cœur du business. Et
je
pense que du coup, ce sera toujours un truc accessoire.
Et ah oui.
Ça m'intéresse pas du tout de lancer un truc là-dedans.
Oui.
Si c'est pas vraiment important et vraiment dans le cœur du business.
Et comment tu fais justement pour arriver à savoir, mais c'est difficile, même quand t'es pas dans l'entreprise, mais à savoir si le discours qu'à l'entreprise est bullshit ou pas.
Bon, un discours, ça restera toujours un discours. Hein. Moi, je veux voir les actes. Hein, si, je sais pas, mais moi, enfin vraiment, je te dis, si c'est pas intégré à ta façon de produire ou de, ça n'a aucun intérêt. si c'est fait pas partir de ton modèle et, enfin parce que franchement, désolé, ouais. Même si tu changes quelque chose dans ta production, par exemple une boîte qui produit des choses, par exemple je sais pas des vêtements.
Enfin, de l'essence.
Enfin, désolé, mais le modèle économique, faut tout repenser, en fait. Mm. Faut tout repenser. C'est pas que, ah, tiens, je vais mettre un petit peu de coton bio. Non, rien à, mais non, en fait, c'est tout. C'est les gens avec qui tu travailles. Mm. C'est où est-ce que tu le distribues. C'est comment tu le communiques. C'est tout. Sauf que la plupart du temps, les gens, quand ils veulent mettre un peu de RSE, ils disent juste, voilà, on a mis ça, on a mis un peu de coton bio, et ça passe. Bah.
Ah oui.
Sauf que moi, j'ai un énorme problème avec ça, parce que, bah non, pour moi, c'est de l'hypocrisie. C'est juste pour faire joli, parce qu'ils savent que ça va faire plaisir et rassurer la conscience de des consommateurs. Mais pour moi, c'est pas du vrai engagement.
Mm.
Et j'aime pas trop... ouais. Enfin, c'est toujours ça, tu me diras, mais pour moi, c'est pas vraiment des boîtes que j'appellerais engagées.
Oui, en fait, c'est une question de système plus que vraiment des petits actes. Ah, ok. Non, mais ça fait sens. Je comprends mieux.
C'est compliqué parce que tu peux pas leur en vouloir, tu vois. Il faut en fait la thune, c'est ce qui fait marcher la machine, tu vois. Mm. Et oui, on en aura tous besoin, et en fait c'est ce qui fait marcher le truc. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, qu'on entend beaucoup que c'est systémique et que faudrait changer le système et tout. Mais parce que oui, en fait oui, il faudrait tout changer pour que vraiment l'impact change. Après, je sais pas, peut-être que j'ai été un peu dure tout à l'heure, parce qu'en vrai c'est toujours ça de prix, tu vois ce que je veux dire. Enfin, même s'il y a un peu d'impact et tout, mais c'est juste que c'est tellement minuscule. Et c'est un peu hypocrite, mais...
Ouais, après, c'est ce qu'on dit toujours, que c'est aussi aux grandes entreprises qui incombe la plus grosse responsabilité, parce que même si nous, on fait plein de petits gestes...
Ouais. Ça, je suis un peu mitigée. Sur ce discours-là, moi, je pense qu'on est clairement responsable. Pour moi, le consommateur a beaucoup plus de pouvoir que les entreprises et que les politiques. Parce que très souvent autour de moi, j'entends des gens qui disent non mais c'est de la faute c'est de la faute de l'État. Alors ça, vraiment, je suis désolée, mais l'État ne fera jamais rien changer. Je n'y crois pas du tout, pouvoir public.
Oui.
Et j'ai d'autres potes qui disent non mais c'est la faute des entreprises et des lobbies. Et moi je suis en mode, mais vous n'avez rien compris. Nous sommes responsables. C'est juste que c'est tellement plus agréable et confortable de se dire que c'est de la faute des entreprises et de l'État. Mais c'est de votre faute, c'est de notre faute à tous. Ce qu'on achète, on donne du pouvoir en fonction de ce qu'on achète. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc si demain, moi, j'arrête d'acheter chez Ikea, bah ouais, j'arrête de vouloir enrichir Ikea, c'est tout.
Mm. Non, mais je suis assez d'accord avec toi.
Et c'est dur, et au final, j'avoue que c'est dur, parce qu'au final, t'achètes plus rien, et nanani, nanana. Mais au final, il faut être conscient, au moins, savoir se dire... que l'on est responsable. Moi, je pense que c'est vraiment un grand pas, plutôt que de tout le temps rejeter la faute sur les grands parce qu'ils ont l'argent. Mais en fait, les grands, si on n'achète plus, ils sont plus grands. Hein. Ils font faillite. C'est tout simple.
Ouais, après, je pense plus, tu vois, on parlait de Total.
Ouais.
Je pense qu'eux, ils sont... Enfin, tu peux pas vraiment vivre sans Total aujourd'hui. Tu vois, comme Amazon, c'est difficile. Je pense que c'est des sacrifices d'autant plus grands.
Mm.
Mais effectivement... Moi, je suis assez convaincue qu'on a un certain impact, mais que c'est aussi aux grands de changer, mais qu'ils ont aussi les thunes pour changer.
Ouais.
Pour l'instant.
J'imagine qu'il faut aimer... C'est un peu... Tout le monde peut faire, ça, c'est sûr.
Mmh.
Ça, c'est sûr. Ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est ça qui est un peu plus difficile d'avoir... d'avoir un impact particulier. Mais après, tu vois, pour revenir au collège, là, c'est un grand écart. mais tu vois, tu me disais que tu faisais des œuvres aussi un peu engagées.
Ah ouais, de temps en temps. Parce que ça dépend, hein, mais pas beaucoup, mais effectivement, c'est moi, en fait, c'est que j'ai, donc c'est des fois mon moi engagé, des fois c'est mon moi juste, ce que je trouve beau, ce qui me touche, mes émotions, enfin, c'est un peu de tout.
Ouais, mais ça te permet aussi de faire passer, tu vois, des messages, de continuer à faire rayonner un peu tes engagements. Mais c'est trop drôle. Est-ce que tu... Enfin, c'est une question qui va avec ce que je te disais tout à l'heure sur... Enfin, je montre ton bureau, mais sur les questions, tu vois, de validation extérieure, de besoin de savoir quand tu termines ton œuvre. Mais est-ce que t'as commencé à envisager aussi ta monétisation et tout, parce que t'avais des amis artistes qui faisaient ça aussi et que t'as un peu porté par ça, ou vraiment, même si eux l'avaient pas forcément fait, tu te serais lancé dedans?
En fait, je sais pas trop comment répondre à cette question. Enfin, c'est venu naturellement la monétisation, parce qu'en fait, le tout premier collage que j'ai vendu, c'est une pote d'un ami qui m'a dit, est-ce que tu pourrais me faire une commande personnalisée pour un anniversaire? Et, évidemment, je dis oui.
Et elle t'a envoyé un message comme ça?
ouais, elle est super mignonne, on s'était déjà vu en soirée, mais enfin, on se connaît pas plus que ça, et j'ai dit oui, oui, bien sûr, quel est le thème? Comment j'étais à fond, tu vois, et en fait, que bah, du coup, je l'ai vendu, forcément, elle me l'a acheté, et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, pourquoi pas? Et en fait, c'est tout con, mais avant même que je dise que je les vende, tous mes potes, qui sont vraiment les meilleurs potes de la Terre, à chaque fois me disaient, je te l'achète.
C'est trop bien.
Et j'étais en mode, ah bon, et tout, enfin, et du coup, c'est venu un peu naturellement, et si, si, bien sûr que j'y ai réfléchi, si, si, mais bon, je suis un peu raisonnable, quand j'aurai le temps, genre, j'ai plein de projets et tout, mais il faut aussi que j'apprenne à freiner, parce que je suis du genre à faire beaucoup trop de trucs en même temps, et ça prendra le temps que ça prendra, de mettre sur Etsy et de, tant pis.
T'as un caractère plutôt impatient, d'habitude?
Pas impatient, éparpillé, je m'éparpille. Je fais plein de choses tout le temps. Je suis très organisée, mais j'organise trop. C'est-à-dire que je suis capable dans une soirée de mettre 3 trucs et après de me rendre compte que c'était pas faisable. Genre,
ok, d'accord.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Je suis un peu gourmande. Le pire, c'est que je sais très bien que je suis comme ça, mais à chaque fois, je m'enfonce dedans et parce que je peux pas, je sais pas si c'est que je peux pas choisir, comme tu disais plus tôt, mais j'aime trop faire plein de trucs.
Ok.
J'ai besoin de cette émulation, de cet ensemble de trucs, ouais.
Ouais, mais c'est ce qu'on disait aussi sur le fait de potentiellement tu peux travailler en temps partiel ou
ouais.
D'avoir justement
on n'a pas parlé
d'avoir
temps
ce temps
ouais.
De dégager pour pouvoir te consacrer à autre chose et un peu avoir avoir ce rythme idéal.
De ouf.
Et ça, tu
life goal. Franchement, ouais. Franchement, si je peux le faire, si je peux avoir un salaire décent avec un temps partiel, mais je fonce fois 1000. C'est moi, j'adore ma vie hors travail officielle. Enfin, vraiment, c'est trop cool. Enfin, et c'est hyper stimulant, tu vois. Je fais plein de trucs, je lis, je bouge tout le temps. Enfin, genre, j'ai trop besoin de ça. Ça prend du temps les collagens. Franchement, je peux pas faire ça tous les week-ends. Hein.
Bah ouais, mais justement, tu pourras potentiellement demander un temps partiel dans quelques temps, quelques années. Tu pourras en chercher, mais déjà, c'est trop bien que t'aies été sensibilisée au temps partiel. Enfin, c'est bizarre à dire, mais ouais, mais tu vois que t'as déjà cet exemple.
Complètement. Ouais, et c'est marrant parce que ma sœur aussi a un peu l'exemple en tête et tout. Enfin, on est toutes les deux comme on voit que ma maman, notre maman, ça va, et ça lui convient parfaitement. Après, j'ai eu conscience que c'est pas le même métier, quoi. Vraiment, je ne sais pas si ce sera aussi possible, mais tout est négociable. Je me dis que tout est possible, tout est négociable. Si on demande pas, on saura jamais si on pouvait y arriver ou pas. Et puis bon, si je suis dans une boîte, ça se passe bien. Si même vraiment, je veux dire, c'est négociable.
Oui. Oui, et je pense qu'après, si tu leur expliques que ça te rend plus heureuse, plus tranquille...
Complètement.
Ce sera forcément... Attends, tu peux du coup me rappeler ce que faisait... Attends, le rythme qu'a ta mère, j'ai oublié.
Ah, ma maman est infirmière anesthésiste et elle bosse... elle a 1 ou 2 jours off par semaine.
Trop bien.
Soit 3 ou 4 jours de boulot, quoi.
C'est trop bien.
Et
elle arrive, du coup, à faire plein de trucs différents et...
Ouais, après, ma mère, elle a pas trop de passion. C'est marrant. Elle pourrait carrément... Enfin, si, elle lit beaucoup. Ma maman, elle lit beaucoup. Donc, elle lit, elle prend son temps, elle s'occupe de la maison et tout. Ça lui permet juste de pas être dans ce rush. Je sais pas comment dire. Parce qu'au final, mine de rien, un week-end, ça passe vite, hein. Je trouve.
Oui. Ça passe trop.
2 jours, c'est vraiment mais l'enfer, quoi. Enfin, il faudrait 3 jours.
Comme là, tu dis que t'aimes bien faire plein de trucs. T'es quand même dans une... Enfin là, t'es dans une entreprise où t'as un poste bien défini. Parce que j'imagine qu'ils sont déjà suffisamment développés pour avoir des tâches un peu diverses. Mais est-ce que t'as déjà pensé genre à rejoindre des startups qui sont vraiment plus early? Ou justement, t'as des postes qui sont... pas plus éclaté, mais où t'as vraiment une mission qui évolue tous les jours et où du coup tu pourrais faire un peu de tout au fur et à mesure.
Alors à la base, je m'étais dit que ça me plairait trop.
Ok.
Et je me souviens, j'avais eu un entretien avec quelqu'un qui m'avait dit... en fait, ça m'avait pas du tout donné envie parce que le mec me disait en substance que c'était le bordel et que ça partait dans tous les sens et tout. Et en fait, ça m'a juste... Mais ça m'a hérissé le poil. Je me suis dit, oh là 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 là, ça va pas du tout... Et en fait, c'est marrant, tu vois, c'est grâce à cette interview-là, pour cette boîte-là, je me suis dit, mais ça va pas te plaire, en fait, une start-up trop early stage, parce qu'en fait, c'est trop instable, c'est trop... Il n'y a pas assez de choses définies. En fait, c'est là que je me suis rendu compte, ok, Camille, t'as besoin d'un truc un minimum défini pour t'en dire bien. Et du coup, je sais que ça me plairait pas.
Ok. Ah, mais est-ce que... Enfin, ouais, j'arrive pas à savoir, mais... Est-ce que c'est le côté stable qui t'intéressait plus?
Bah, un minimum stable, parce que moi, même, c'est rien que le fait que j'ai de comprendre que c'était le bordel, je me suis dit, mais ça va juste être pas du tout agréable, parce que tu vas voir, je visualisais déjà le truc où t'as des gens qui fuyant, ou t'as des... Enfin, c'est un peu le genre de bail que tu connais en asso, enfin, où c'est le bordel, et j'étais en mode, mais plus jamais, enfin, j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'un truc hyper carré. J'ai envie d'avoir de la liberté dans mon poste, tu vois, quand même. Genre, je sais que j'ai la liberté d'initiative dans mon poste et tout. Mais il y a une bonne base bien définie, avec des process bien clairs et tout. Et ça, c'est super agréable. Et tu sais que dans la boîte où je suis, enfin, tout le monde dit, tu verras, enfin, c'est juste ouf comme boîte parce que c'est tellement confortable de bosser dans une boîte où les process sont bien définis. Et en fait, enfin, genre, ils ont tellement raison. Incroyable.
Je trouve que c'est trop chouette aussi de savoir justement ce qui te convient en termes de management ou pas, parce que tu vas voir les entreprises en fonction de ça. Mais comment t'as su, tu vois, quand t'as rencontré ton entreprise, comment t'as senti justement que c'était une entreprise qui allait te convenir? Parce que tout à l'heure, je te posais la question sur le développement durable, comment tu sais dans les discours, mais même en entretien, c'est ultra dur de pouvoir sonder une entreprise et vraiment leur faire confiance dès le début.
Je l'ai senti parce que déjà j'ai eu un très très bon feeling avec mon manager.
Ok.
J'ai senti que c'était quelqu'un avec qui j'allais être à l'aise de travailler, avec qui j'allais être à l'aise surtout d'être managée, parce que c'est ultra différent aussi. Ouvert d'esprit, dynamique. Enfin, en fait, ça collait quoi. Ça collait. Je me suis dit ouais, ça j'aime bien. C'est le genre de personne. Je sais que ça va bien se passer. Et tu sais, enfin, dès l'entretien, il m'a tout de suite parlé des process et tout. Il m'a un peu fait rêver, il m'a mis un peu mis des étoiles dans les yeux, parce qu'en fait, mon stage juste avant, c'était de la prospection, mais genre, pas du tout outillé, pas du tout, enfin. Donc forcément, moi, il me vendait du rêve, quoi. Je me suis dit, ah, mais ça a l'air génial, et tu sais, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'intuition. Moi, je pense de plus en plus qu'il faut se fier à son intuition, parce que pendant tous ces entretiens, je le sentais. Je me suis dit, ça va bien se passer. Alors que, l'une de mes expériences où ça s'est vraiment très très mal passé, au final, je me souviens de l'entretien, et ça c'était pas, il y avait un truc qui clochait, et j'aurais dû me faire confiance et m'écouter et me dire, Camille, ce n'est pas pour toi, n'y va pas. Et, sauf que, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait, oui, mais quand même, le conseil, tout le monde, c'est bien, et puis tu seras bien payé, et puis c'est plus ambitieux quand même. Et donc, du coup, j'ai pris ce taf-là. Et c'était une décision de merde. Ça m'a pas du tout plu.
Mais tu l'as senti, genre,
Ouais, parce que le manager était un gros con.
Ok, mais tu l'as senti ça dès l'entretien, genre dans... genre, tu l'as senti dans ton corps, c'était...
Oui,
c'était...
Oui, je l'ai senti dans mon corps. Oui, je l'ai senti dans mon corps. J'ai tout de suite senti que c'était quelqu'un avec qui j'allais pas m'entendre.
Ok.
Et pourtant, j'avais cette partie-là dans ma tête qui me disait, mais passe outre, en vrai, meuf, t'as vu, ça te fera ça sur ton CV, ça te fera... Enfin... toute cette petite voix, tu sais, à l'UM, tout le monde te dit, ouais, le conseil, c'est tellement génial, et puis tu vas tellement apprendre et tout. Et je m'étais dit, pense à ça, focus toi sur ça.
Ouais, c'est un peu une définition de la réussite, ce qu'on te vend aussi en école.
Oui. Et t'inquiète pas que maintenant, je n'écoute plus du tout les discours préconçus.
Okay.
Maintenant, je suis mon instinct et ce qui est bon pour moi. Et ce sera pas ce qui est bon pour les autres, ce sera ce qui est bon pour moi.
Et du coup, aujourd'hui, justement, quelle vision t'as de la réussite?
Ah! Alors,
ce que je me dis par rapport réussite. À... Ouais. Enfin, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur ne serait-ce que l'ambition, et te dire, cette petite voix te disait, ce sera plus ambitieux, ce sera mieux. Finalement, t'as trouvé autre chose qui, aujourd'hui, n'a rien à voir.
Oui, et mais donc, qui m'empêchera pas d'être quand même... En gros, voilà, pour moi, la réussite... c'est réussir à atteindre ce point où t'es super bien dans ton boulot et dans ta vie, genre t'as assez d'argent pour être pour pouvoir te payer tout ce que tu veux et tout, mais pas trop non plus, enfin l'idée c'est pas trop d'en avoir trop, tu vois, c'est juste être dans ce point de confort et en même temps dans ce point de bien-être, de t'es dans un métier qui te stimule, qui te rend heureuse, même si c'est jamais parfait, tu vois. Oui. C'est quand même, voilà, c'est être dans ce truc de et aussi être dans ce truc de je pense la réussite, c'est avoir réussi à avoir un beau parcours, tu vois, avoir appris plein de choses, avoir rencontré plein de gens, avoir progressé, en fait.
Ouais.
Avoir c'est un chemin, en fait, genre pour moi la réussite c'est pas genre tant de cas sur ton CV, enfin tant de cas à la fin du mois, pardon.
Oui.
ou tel nom sur ton CV, enfin je trouve ça ridicule, en fait. C'est juste choisir les standards parce que un tel parce que, enfin non, c'est ridicule, en fait. C'est hyper personnel, la réussite c'est ce que toi tu veux atteindre dans ta vie, c'est ton objectif. Moi mon objectif c'est d'être heureuse, et
c'est ultra ambitieux.
C'est ultra ambitieux, mais je donne vraiment les moyens, ouais, pour. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Et je vais juste essayer de continuer, tout en progressant, tout en voyant ce que je peux apprendre, ce que je peux. Mais tu sais, déjà, rester heureuse, c'est quand même déjà un objectif en soi. Non, mais. Enfin, voilà. Après, je pense que c'est une définition personnelle, la réussite.
Mmh. Mais à quel moment, justement, tu t'en es. Est-ce que. Enfin, pas à quel moment tu t'en es rendu compte, mais est-ce que c'est avec ce stage que tu t'en es rendu compte?
Ouais, bah typiquement oui, parce que c'était pour ça que je l'avais pris.
Ok.
Et effectivement, pendant, je me suis dit, mais non, ce n'est ni le domaine qui... le domaine ne m'intéresse pas. Les gens avec qui je travaille, non seulement je ne les admire pas pour un sou, mais je n'arrive pas à travailler avec eux parce que ça ne fit pas du tout, du tout, du tout. Et le milieu, tu vois, le milieu du conseil, c'est pas du tout un milieu fait pour moi. C'est tout.
Je connais pas du tout ce milieu.
C'est horrible.
Ok.
Non, mais en vrai, je dis ça, mais bon, ça se trouve, les gens qui nous écoutent, qui s'épanouissent là-dedans, et tant mieux. L'idée, c'est de trouver un truc qui convient à chacun, mais moi, pas du tout. Mais rien que dans l'essence de ce métier, le fait de conseiller à un tiers en faisant des beaux PowerPoint et en, c'est vraiment pas mon délire, et surtout s'habiller tous les jours en costume, c'est vraiment, mais tu sais, c'est dingue, hein, à la fin de ce stage, quand je me suis enfin réhabillée comme moi-même, ça me fait un bien fou, je me suis dit, mais c'est dingue, genre, je me retrouve, c'était pas du tout fait pour moi.
Ah, c'est fou, j'avais jamais pensé à ce truc de s'habiller qui influençait ta personnalité. Et du moins ton mode de fonctionnement.
Bah moi, en tout cas, moi je sais que la façon dont je m'habille, après, on dirait que je m'habille d'une manière très particulière, mais même pas forcément. mais juste, c'est une façon de s'affirmer. Mmh. Moi, je sais que c'est hyper important pour que je me sente bien. Tu vois, par exemple, j'adore je mets plus de jupes que de jeans, par exemple. Mmh. Parce que j'adore, mais on s'en fout. Mais juste, toujours est-il que pendant ce stage-là, je m'habillais tout le temps de la même manière, d'une manière très monotone et tout, et je me sentais mal de c'est comme si je mettais un costume trop grand pour moi, tu sais, un truc fait, mais pas du tout pour moi, quoi.
Ah, c'est drôle.
Un truc standardisé où il faut rentrer dedans, il faut rentrer dans le moule. Bah, en plus, franchement, typiquement, le conseil, c'est ça, tu vois. À l'UM, on te dit, il faut rentrer dans le moule et tout, mais moi, je ne peux pas rentrer dedans. Je rentrerai plus dans un costume pour le taf, c'est fini.
Ah, mais c'est fou. Bah, après, je pense que c'est typiquement le genre de choses où tu t'en rends compte, mais une fois que t'es passé dedans.
Oui.
Parce que moi, je l'ai jamais fait, mais après, je pense que à aucun moment de ma vie, je voudrais le faire. Mais je me dis, si t'as un peu de doute, je pense que tu te forges vraiment cette opinion en y allant.
Je pense que c'est marrant parce que c'est un peu mon problème. Moi, mon problème, tu disais que j'avais du mal à faire des choix, c'est qu'en fait, je vais toujours être un peu très ouverte et toujours me dire, toujours dans le doute du pourquoi pas. C'est vraiment mon motto.
Ok.
Je suis toujours dans le pourquoi pas. Mais okay. Le problème, c'est que ça me joue des tours parce que des fois, tu vois, je suis amenée à prendre des décisions en me disant, mais on sait jamais, nanana, et en fait, je m'écoute pas. Donc, c'est un peu piégeux. Parfois, c'est bien parce que, du coup, je suis hyper ouverte d'esprit, mais parfois un peu trop parce que, en fait, je me laisse entraîner dans des trucs où finalement, je me rends compte que, bah, c'est pas fait pour moi, c'était pas une bonne décision et tout. Donc,
ouais, mais après, de ce que tu me disais, tu commences aussi à reconnaître un peu les signaux qui te disent non. Mais aujourd'hui, tu les écoutes un peu plus.
Clairement. Ah oui.
Donc, même si t'es dans le pourquoi pas, normalement, tu devrais quand même ne pas aller vers des voies qui te rendent malheureuse.
C'est vrai. Bah, le point positif, c'est qu'on apprend de ses erreurs.
C'est vrai.
Oui, j'ai appris de mes erreurs.
Ah, tu considères ça comme des erreurs?
Ouais, c'est peut-être un peu dur de dire ça. Non, mais il y a toujours du bon à retirer de chaque expérience. Même l'expérience un peu naze. Non, mais c'est vrai, il y a toujours...
un peu
naze, disons les choses. Mais je pense que c'était pas les meilleures décisions.
Ok.
Mais, alors par contre, je suis quelqu'un qui n'a jamais de regrets.
J'ai vraiment le YOLO.
Ouais, YOLO. Non, je déteste le concept de regret. Genre, en vrai, j'ai pas de regrets. Enfin, j'ai pris la décision... Encore une fois, parce que j'avais des raisons à cette époque-là. Bon, voilà. Après, bon, ça s'est pas super bien passé. Bah, voilà, c'est nul, mais c'est comme ça et ça se reproduira pas.
Ouais, au moins t'as testé et tu sais que c'est plus ce vers quoi tu vas aller.
Voilà.
Mais je retiens le concept de, j'allais dire, du déguisement dont tu parlais tout à l'heure. Je trouve ça super intéressant de se dire que tu peux aussi être moulé en fonction de ce que tu portes ou ce qu'on te force ou non à. Ouais. Apporter. Je pensais pas du tout que ça avait autant d'influence.
Bah, en fait, moi, je suis quelqu'un de hyper intègre. Genre, j'ai l'impression de plus vraiment être moi-même. Je sais pas comment dire. C'est important, je trouve, quand même, de pas oublier que même au boulot, t'es une personne, tu vois, t'as une personnalité, t'interagis avec. Et moi, c'est aussi un truc que j'adore là où je suis, c'est que il y a une super ambiance entre tous les membres de l'équipe, tu vois, mais genre, on sait que chacun a sa façon de fonctionner, que chacun. Mais c'est pas grave, on s'adapte et genre, on a chacun une singularité et c'est génial, tu vois. Mais le fait de porter un costume, c'est inhiber ce truc complètement. C'est te dire non, tu dois être comme ça, comme tout le monde. Ah, ok, bah ouais, mais je suis pas comme ça en fait.
Ouais, c'est un côté plus. Je sais pas pourquoi j'ai le terme interchangeable qui me vient à l'esprit.
Ouais, mais... complètement. Mais complètement, hein. Mais d'ailleurs, j'ai une copine qui est, je ne citerai pas le nom, qui est en audit et qui me disait que c'était. Elle avait l'impression un peu que ça pouvait être interchangeable complètement parce que à son intégration, enfin genre personne a le même bureau, enfin complètement tout est rien n'est fixe, tu vois. Et en plus pas une super cohésion d'équipe, enfin genre elle s'est dit mais en fait ouais si je pars demain il y en a un autre qui vient et puis c'est bon. Enfin
ah, c'est triste.
Ouais. Et ça tu vois, ça me convient pas du tout. Moi, j'ai besoin de savoir que j'ai ma place dans une équipe et qu'on forme un groupe et qu'on y arrive ensemble et que je sais ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais j'y crois vraiment. Enfin moi, quand je vois l'équipe, du coup, je suis toujours en phase d'intégration hein, en quelque sorte, hein, parce que je viens d'arriver dans mon poste. Mais c'est trop beau quoi. Franchement, une équipe qui bosse bien ensemble et
parce que ça veut dire que c'est des personnalités qui ont été choisies les unes pour pouvoir matcher avec les autres. Et effectivement, t'as cette émulation collective d'apprendre ensemble, plus que de te dire « je suis l'intérimaire numéro 1 ».
Ouais, c'est ça.
Oui. Pourquoi... Je me redemande pourquoi ça attire les gens et pourquoi ça t'avait attiré, tu vois.
Alors, il y a l'ambition que je t'ai déjà citée. Après, il y a un autre truc où je reviens dessus, c'est le contexte Covid.
Ah oui.
Il n'y avait pas énormément d'offres à l'époque et ça a forcément influencé mon choix aussi, j'en suis consciente. Après, j'avoue, j'avais une autre offre en face qui, je pense, m'aurait plus plu au final, mais bon, tant pis.
On apprend de ses erreurs.
On apprend de ses erreurs.
Ah, mais c'est intéressant. Mais même, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais sur le côté interchangeable, moi, je me souviens, toujours chez Make Sense, comme je faisais de l'accompagnement aux personnes et je les aidais à apprendre la facilitation. J'avais parlé avec une meuf qui avait fait un burn-out de conseil et ça m'avait dégoûté du conseil. Et elle m'avait dit, et pourtant elle était senior, moi elle gagnait super bien sa vie et tout, que quand elle était dans cette phase de burn-out et de dépression, un matin, elle n'a pas pu physiquement aller au travail et elle a pleuré toute la matinée. Mais elle disait, j'étais dans mon lit, comme une vieille loque, je pleurais, j'en pouvais plus, c'était horrible. Voilà, vraiment, j'avais mal au cœur pour elle. Et pourtant, Dieu sait si j'ai pas trop d'empathie. Bon, c'est bizarre à dire, mais enfin, je suis pas quelqu'un qui ressent forcément ce que les gens. Là, j'ai vraiment compati en me disant, oh mon Dieu, c'est chaud. Et elle me disait donc le midi, je me suis levée en grosse difficulté, mais comme j'étais staffée, je me disais, je peux pas. Je peux pas laisser mon client comme ça, même mon entreprise, quelle image ça donne. Et ce qui était le pire, ce qu'il m'a dit, j'y suis allée, et en fait, personne n'avait remarqué que j'étais pas là le matin.
Oh putain.
Et j'étais là, bon, ok. Ok, bah alors vraiment, c'est chaud. Et je crois qu'elle a démissionné depuis, mais vraiment, cette histoire m'a fendu le cœur. Parce que j'ai vraiment vu ce truc de... ouais, t'as un numéro parmi tant d'autres et tu fais juste partie du décor, mais on s'en bat les couilles de savoir si tu vas bien le matin, si t'as passé un bon week-end. Donc c'était très bizarre. Très très bizarre comme milieu. Et je pense que ce qui me fait peur aussi dans le conseil, c'est que souvent tu dis c'est pour 2 ans et après j'arrête. Mais j'ai l'impression que t'es tellement détruit psychologiquement au bout de 2 ans que soit tu continues parce que tu dis bon bah maintenant j'ai de la thune et j'ai envie de continuer. Soit tu continues en disant... Enfin, tu démissionnes plus exactement en disant maintenant j'ai des frais de psy à payer et une reconversion à payer, mais ouais, mais ça se voit que la personne a porté le poids de ces années de conseil. Et franchement, quand je vois des potes, mais je me dis mais gros, mais arrête quoi. Enfin, vraiment, ça se voit sur leur visage qui subit sa vie.
Mais ça, franchement, c'est genre, enfin, on devrait tous repenser cette idée de sacrifice. Je suis désolée, mais enfin, pourquoi ils font ça, tu vois? Genre, au final, pourquoi ils font ça? Et au final, si c'est que de la thune ou du prestige, enfin, je suis désolée, mais se demander c'est quoi le prestige, est-ce que c'est vraiment si important pour eux? Et c'est quoi la thune? Franchement, je suis désolée, mais on se pose pas assez la question de il me faut quoi pour être heureux, il me faut quoi pour vivre? Parce qu'au final, est-ce qu'on a besoin d'être richissime et tout? Enfin, c'est peut-être un truc de fierté en mode ah, j'ai fait l'EM, il faudrait que je gagne bien. Mais bah ouais, mais en fait. Ouais. Enfin, c'est quoi le plus important pour toi? C'est juste faire ça parce que t'as fait ça comme étude ou mais tu le veux vraiment? Enfin, c'est quoi ton objectif de vie, quoi? Moi, je me suis il y a pas longtemps, je me suis vraiment posé la question de l'argent en mode, je me suis posé la question, tu vois, j'ai réfléchi, je me suis dit bon bah ouais, il m'en faut pour vivre, il m'en faut. Mais en final, j'ai pas du tout, je suis pas dans cette poursuite de la thune, tu vois. Ouais. Genre, bien sûr que c'est important parce qu'on en parlait juste avant.
Oui.
Évidemment, mais en fait c'est marrant, hein, c'est toujours un arbitrage. Hein. Il en faut assez pour que tu puisses vivre, mais est-ce qu'il en faut pléthore si en plus tu fais des heures et que tu peux même pas profiter de ton temps? Bah désolé, moi je préfère du temps et pas d'argent.
Oui. Oui, mais c'est vrai que c'est à toi de choisir un peu quel est le plus important. Mais c'est ultra intéressant, tu vois, ce truc de se poser la question, est-ce que tu t'es demandé ce qui est importé pour toi, ta définition du prestige. Je pense qu'on nous donne pas non plus l'opportunité de vraiment se poser. Parce qu'on est un peu sur l'autoroute de la vie, t'as pas le droit de rien faire. Enfin, tout à l'heure, tu vois, tu me parlais d'une période de chômage. Je trouve que c'est assez peu courant enfin, pas de rien faire, mais de s'arrêter en sortie d'études ou de faire des pauses.
Ouais. C'est important, je pense, de se poser ces questions. Ouais. Ouais, mais en plus, c'est compliqué, parce que quand tu sors d'école, enfin, quand t'es jeune diplômé et tout, t'as plein de pression, en fait, quand même, tu vois. Il faut que tu te mettes à travailler vite, il faut que tu rentres sur le marché du travail, parce que bon, bah, t'as un prêt à rembourser ou non, mais il faut que tu fasses des trucs, quoi. Et du coup, t'es un peu happé par plein de choses et tu prends pas le temps. Et peut-être que oui, le confinement et tout. Enfin, moi, j'avais pas de boulot pendant le confinement et clairement, bah, ouais, je réfléchissais, quoi. Je me suis posé des questions.
Mais est-ce que tu penses que si t'avais pas eu le confinement et ce contexte, t'aurais pris ce temps?
Oui, parce qu'en fait, c'est pas mon plus gros temps de réflexion. Il a eu lieu à mon dernier stage, où ça s'est mal passé, en conseil, justement.
Ok.
Et bah c'est là où j'ai découvert ton podcast, et c'est là où j'ai commencé à participer et tout, et à grave suivre, parce qu'en fait, j'étais perdue. Mais genre, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que j'étais pas à ma place dans mon boulot. Okay. Et le problème, c'est que je ne savais pas du tout vers quoi je voulais aller. Et j'étais complètement perdue. Et ça m'a vachement rassurée, mon Dieu, d'entendre tous ces gens qui étaient perdus aussi. Et je me suis dit, ok, je suis pas bizarre. Ok, ça va aller. En fait, déjà, ça m'a permis juste de me rassurer d'un point de vue émotionnel. Genre, j'ai arrêté de paniquer parce que j'étais en panique. Hein. Et après, je me suis dit, bon, bah, ok... Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, j'ai enlevé toutes les pressions. Je me suis dit, la pression du job de rêve, arrêtée. La pression de l'ambition, arrêtée. Je me suis dit, ok, on va juste trouver un truc qui fait qu'on est bien. Et pour gagner un peu d'argent, c'est tout. Et du coup, bah, voilà où j'en suis aujourd'hui, là, et ça va, ça se passe bien. Mais j'ai quand même eu cette phase vraiment de gros bad, mes 6 mois de stage qui se passaient mal, et je savais pas où j'allais.
Ok. Après. Ah, c'est ouf que tu parles de panique, carrément.
Ça m'angoissait, ouais.
Et c'était le fait de... Enfin, de pas savoir vers quoi t'allais qui t'angoissait ou c'était...
vraiment ce truc de dire je suis pas à ma place.
Non, les deux.
Ok.
Bah ouais, oui, clairement, j'étais extrêmement mal dans mon boulot. Et à côté de ça, enfin, vraiment, qui me faisait me sentir vraiment comme une merde. À cause d'un quelqu'un qui savait pas du tout manager. Mmh. Et à côté de ça, ouais, j'angoissais parce que je voyais pas l'après. Je comprenais pas ce que je devais chercher après, enfin, à la place, qu'est-ce qui pouvait marcher pour moi, qu'est-ce qui... Ouais, c'était un peu dur. Bah, en plus, tu vois, je sortais juste avant ça, j'avais fait un stage, bah, du coup, engagé, qui n'avait pas plu. Et avant, donc, ce stage en conseil, j'étais censée faire un stage dans une boîte de food engagée, mais qui a annulé mon stage à cause du confinement. Okay. Donc, c'était un peu dur pour moi. Genre, je venais de traverser une année, en fait, où j'avais des jobs qui m'avaient pas plu. Ça s'était mal passé.
Okay.
Je commençais à être un peu fatiguée, tu vois. Je comprenais ouais. pas où j'allais et ce qui allait m'endre. Mais bon, le principe, enfin, le positif quand même, c'est que du coup, je me suis posé plein de questions.
Et comment t'as fait pour enlever toutes ces pressions? Parce que la façon, tu vois, les gestes que t'as fait, j'ai eu l'impression que ça allait super vite. Mais, enfin, je sais pas quels outils t'as utilisé ou quelles questions tu t'es posées pour arriver justement à les écraser. comme ce geste.
Ouais, vraiment. Bah, l'écrasement émotionnel, ça a été ton podcast. Vraiment, je me suis calmée d'un coup. Ouais, ça, enfin, non, mais c'est vrai, je me suis dit, ok, ça va aller. Genre. Mm. Ensuite, bah, mes proches et tout aussi, ça m'a beaucoup aidé. Le fait d'en parler autour de moi. Enfin, moi, j'en ai parlé à tout le monde.
Ok.
Mais parce que moi, je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Mais parce que j'avais besoin de, vraiment, de comprendre à quel point la situation dans laquelle j'étais était pas normale. Et en fait, d'entendre tous les gens réagir autour de moi et me dire, mais c'est grave, en fait, c'est pas du tout normal. Mm. Et du coup, je me suis dit, ah, ok, donc, c'est pas moi, c'est vraiment cette situation qui ne va pas, ok. Et du coup, ouais, enfin, j'ai fait ce geste-là, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, en vrai, ma panique par rapport à où est-ce que j'allais, elle était un peu lissée dans le temps, quand même, enfin, je me suis... C'est au fur et à mesure des offres et tout, de passer des entretiens, de reprendre confiance en moi, et de me dire, ok, c'est bon, ça va aller... Puis tu sais, le dégoût du conseil, ça joue beaucoup dans la remise en cause de l'ambition, hein.
Parce que t'as d'autres, enfin dans mon esprit, il y a d'autres voies royales qu'on nous propose en école, ne serait-ce que, tu vois, même si vous serez des entrepreneurs, vous allez entreprendre vos vies, ça peut être bah, pas forcément devenir un super conseiller, mais tu peux devenir super auditrice. Mmh. Donc ça peut être un autre truc aussi vers lequel t'aurais pu te tourner à la fin de tout ce truc, ce que disait Anne aussi. Mais je pense que c'est un peu le même mécanisme que elle, si elle avait pas eu ce gros bad en stage. Elle se serait jamais non plus posé ces questions-là et elle aurait continué un peu sur son autoroute de la vie. jusqu'à ses 40, ses 40 ans, ses 60 ans, je sais pas, et se poser des questions-là à ce moment. Donc, je trouve ça ouf aussi de dire que c'est juste parce que, enfin, juste. Surtout parce que vous avez eu ces expériences un peu traumatiques que vous vous êtes posé des questions à un moment.
Ouais. C'est con, mais oui. C'est comme ça que ça arrive, ouais. Donc faut le prendre positivement.
Oui.
Enfin, c'était chiant, mais au final, ce que tu ressors à la fin, c'est cool, quoi. T'as des armes pour affronter la suite, quoi. Tu te dis, ok, encore des armes. Je suis vraiment dans la métaphore guerrière, là. Non, mais tu vois, tu peux affronter la suite en... T'es plus confiant, quoi. T'as appris sur toi-même, t'as appris.
Ouais. Et est-ce que dans ce questionnement, tu l'as fait seule ou t'as des amis qui t'ont suivi dedans et qui aujourd'hui aussi ont un peu fait un point sur qui sont, quelles sont leurs envies et qui ont un peu changé plus ou moins leur trajectoire de vie?
Changer, je suis pas certaine. J'ai envie de réfléchir. Autour de moi, j'ai vraiment des parcours un peu vraiment très différents. J'ai un pote qui est en littérature et qui a changé et qui est parti vers la communication, mais c'est pas vraiment changé, c'est juste il a précisé son parcours, mais c'est pas vraiment changé. J'ai une copine qui, elle a pas changé, mais elle s'est retrouvée dans cet état, c'est une copine de l'EM. Coucou. Et en fait, elle s'est retrouvée dans cet état où, comme moi, elle était un peu, perdue, genre, face au vide des offres. Il y avait très peu de choses qui l'intéressaient.
Okay.
Et en fait, elle a vécu une période de chômage aussi. Et, c'est pas évident vraiment ce genre de période parce que tu te dis mais tu sais pas où tu vas, tu sais pas, et tu, en plus au fil du temps tu perds un peu confiance en toi parce que tu passes pas forcément beaucoup d'entretiens puisqu'il y a pas beaucoup d'offres qui te plaisent, et après tu te poses des questions, et puis et en plus à côté de ça elle me parlait d'une copine à elle qui était ultra qui faisait plein de projets dans sa vie et tout, et qu'elle admirait beaucoup parce qu'elle faisait elle osait faire plein de trucs, genre une formation médecine chinoise, je sais pas quoi, plein de trucs comme ça. Elle m'en parlait, elle me disait mais c'est ouf, non, et je disais ouais, c'est vrai, c'est ouf. Après, bon, fais ce qui te convient, toi.
Mais on a tous ces potes qu'on regarde et on se dit oh mon dieu, mais ils sont mille fois plus ouf.
Ouais, c'est fou, hein. Après, c'est de l'inspiration,
ouais.
c'est génial. Mais effectivement, je me souviens, on s'est retrouvés à toutes les deux se dire, mais qu'est-ce qu'on fout là? Parce que elle, bah attends, ouais, faut quand même que je commence par le début. Elle a aussi vécu un stage qu'elle n'a pas du tout bien vécu.
Ok.
Où en fait, pareil, c'est vraiment l'environnement. C'est-à-dire qu'elle s'est pas du tout retrouvée, ça a pas du tout fité avec les gens qui étaient là-bas.
Ok.
Et l'environnement et tout, elle s'est dit, mais je ne suis pas, qu'est-ce que je fous là? Elle me disait, mais à chaque fois, je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai rien en commun avec tous mes collègues, j'ai le boulot, je suis pas du tout passionnée, et c'était pas horrible en soi, tu vois, c'était du marketing, c'était ce qu'elle voulait faire, mais juste ça il y avait un truc qui clochait, tu vois, et du coup elle s'est dit mais non, c'est pas ça que je veux faire, mais du coup je veux faire quoi? Ok. Du coup c'est un peu, et donc aujourd'hui du coup putain, je suis beaucoup parlé d'elle. Aujourd'hui là bah elle a pris un job un peu bah à la base c'était un part-time pour juste pour reprendre une activité et pour se laisser le temps de réfléchir, tu vois.
OK.
Et au final elle est en train de le faire et ça se passe plutôt bien, et c'est là que tu vois comme quoi il faut toujours faut pas se décourager, il faut prendre quand même les opportunités. Et aujourd'hui non mais moi je suis très très visuelle. Et au final elle a aujourd'hui le boulot à temps partiel qu'elle fait. Et à la base, sur le papier, ça l'intéressait pas du tout. C'était plutôt un alimentaire, entre guillemets, okay. Et juste pour faire une activité. Aujourd'hui, elle me dit, c'est trop cool. Enfin, c'est pas mon job de rêve, mais ça se passe bien. Et il y a des aspects qu'elle soupçonnait pas, genre typiquement le service client, qui lui plaisent. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, enfin, c'est fou. On peut apprendre de n'importe quel truc et faut pas... Et moi, je la trouve hyper courageuse de s'être dit, bon, bah, tu vois, elle s'est pris en main, elle se dit, bah, vas-y... J'arrive pas à trouver, mais c'est pas grave. Je vais faire ce boulot-là pour continuer à être en activité. Enfin, c'est génial. Enfin,
j'avoue.
C'est trop cool.
Pouvoir arriver à se dire, bon, bah, je réfléchis. Mais c'est un peu ce que tu disais aussi, tu vois, sur le collège, même si ça n'a rien à voir. Mais un travail qui t'occupe manuellement et auquel t'as pas forcément besoin après de penser à mille choses à côté.
Complètement.
Ça permet de te... Bah, de décompresser et de d'aider ton cerveau aussi à moins processer des choses qui... en soi ne sont pas si graves, mais qui se transforment en des trucs énormissimes, parce que t'as que ça à faire, que ça à penser, et avec le confinement, t'avais encore plus que ça à penser.
Mmh.
Donc c'est trop intéressant.
Ah mais t'as tout dit là, je suis d'accord avec toi.
Non mais en vrai c'est trop intéressant d'avoir pu aussi échanger entre vous sur ces questions-là, et d'être passé à ce même moment, parce que je me dis que sinon t'es encore plus... Bah t'es encore plus démunie.
Ouais.
Mais écoute. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'études t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on te propose avec Our Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau !